Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir, en ce jour de très grande chaleur, aux batailles de l'eau. À l'ordre du jour, donc, la sécheresse et les conflits d'usage entre usagers de l'eau sur notre territoire. En ce dernier jour de juillet, alors que 32 départements sont classés en alerte canicule et que 68 départements font l'objet de mesures de restriction d'eau, nous nous intéresserons ce soir aux conflits d'usage qui interviennent de plus en plus fréquemment en France. Après Sivens, Vittel, la Sèvre-Nortiaise ou encore Caussade, sont devenus les noms emblématiques de ces batailles et des fortes tensions entre agriculteurs, industriels, municipalités ou encore défenseurs de l'environnement. Nous en discuterons avec nos quatre invités. Samy Bouarfa, il est chercheur à l'INRAE, il est spécialiste en gestion de l'eau. Gabriel Boulot est politiste, elle est spécialiste des politiques publiques de gestion de l'eau à l'INRAE. André Bernard est agriculteur, président de la Chambre régionale d'agriculture. Agriculture, Provence-Alpes-Côte d'Azur, référent gestion des risques climatiques pour les chambres d'agriculture. Et enfin, Guillaume Choisy est directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne.
Moi, je crois une chose, que depuis, il y a tout ce qui vole en l'air, hein, mais qui ont un peu détraqué un peu le temps. Hein.
Oh, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de là-haut qui nous a un petit peu chamboulé.
Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le cosmos, là, je crois qu'il y a quelque chose de dérangé. Ou bien alors il y a un cycle long que nous n'avons pas connu l'avant-cycle de maintenant.
Ben, tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe atomique, mais enfin moi j'y crois pas. Quoi. C'est un peu peut-être une façon générale la Terre qui se réchauffe ou qui se refroidit.
Voilà, c'était en 1977, au lendemain de ce qu'on avait appelé la grande sécheresse en 1976. Un micro-trottoir de France 3 Région, les mystères de la Terre sur l'opinion des Français sur ce climat. On y entendait évidemment, le temps était dérangé, c'était un cycle long, disait l'un. Ou encore, la Terre se réchauffe, c'est peut-être ce dernier qui avait raison. Bonsoir Guillaume Choisy.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Il y a maintenant un peu d'eau qui a coulé sous les ponts, on l'espère en tous les cas depuis 1977. Mais néanmoins, ce ne sont plus ces explications qu'on entendait parfois dans les années 70 ou 80 qui justifient ces questions autour du manque d'eau en plein été dans notre territoire.
Oui, je pense que les chercheurs de l'IRSTEA nous le confirmeront ce soir, mais effectivement, la connaissance a considérablement évolué. D'abord, il y a eu les accords de Paris avec le constat que le climat allait augmenter de façon relativement significative sur les prochaines années, puis chacun peut le constater, et puis une connaissance aussi de ses effets. C'est ce que l'on constate, nous, sur l'ensemble de nos bassins, où on a fait des études avec un certain nombre de scientifiques pour regarder les incidences du changement climatique sur l'eau, ce que ça allait procurer, réchauffement de la température des rivières, concentration des pollutions dans les rivières, diminution d'enneigement. Sur un bassin comme à Dour-Garonne, c'est moins 60% d'enneigement. En moins, c'est la disparition des glaciers, d'ici 2050, donc c'est 1,2 milliard de déficit de quantité d'eau, c'est la moitié de la consommation annuelle, tout usage confondu, sur notre bassin Dour-Garonne, donc avec une diminution sur les périodes d'étiage de 30 à 50% des débits des rivières. Donc voilà, tout ça va avoir une incidence relativement importante sur notre utilisation d'eau, sur la gestion de l'eau et sur son impact pour les activités économiques, pour l'urbanisation, pour le développement économique du territoire, mais aussi pour les citoyens et pour l'ensemble des acteurs et consommateurs d'eau.
Samy Bouarfa, bonsoir. On aimerait savoir comment on qualifie une sécheresse aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a maintenant des façons de voir et de comprendre ces sécheresses différentes selon qu'elles sont d'origine de manque de pluie, qu'elles sont aussi liées à d'autres types de sécheresses qu'on appelle sécheresses hydrologiques. Quels sont justement les qualificatifs qu'il faut utiliser quand on parle de sécheresse sur notre territoire?
Oui, bonsoir. Donc, oui, effectivement, je vais peut-être déjà vous donner une petite situation de l'année 2020, parce que donc on est à la fin juillet donc, de cette année. Et donc, vous l'avez dit, hein, en période de canicule, donc on est dans une situation aujourd'hui donc préoccupante. Hein. On est cependant quand même dans une situation moins critique que l'année dernière, 2019, ou encore 2017, avec, vous l'avez dit, 68 départements concernés par des restrictions d'eau. L'année dernière, c'était 85.
Donc,
et l'année dernière, on a eu une année où la sécheresse s'est prolongée au mois d'août, et voire septembre, et donc tout va se jouer là de voir ce qui va se passer au mois d'août et septembre. Alors par rapport à votre question, effectivement, la sécheresse, ça démarre la sécheresse de nature hydrologique, ça démarre l'année qui précède en fait, parce que en réalité, donc à partir du mois de septembre qui précède l'été, ce qu'on appelle le début de l'année hydrologique. En moyenne les pluies qui excèdent l'évaporation du sol, et donc on commence à avoir des pluies qui deviennent efficaces, au sens où ces pluies rechargent les stocks d'eau ou rechargent les rivières, et en réalité ces années hydrologiques, lorsque les pluies efficaces sont suffisantes, eh bien, ça prédispose à un été correct, et lorsqu'elles le sont pas, ça ouvre les problèmes. Et donc, en 2019, par exemple, on a eu une année hydrologique très sèche tout au long du cycle qui a précédé, au sens où les pluies n'étaient pas suffisamment efficaces.
Mais on peut être surpris, parce que si on a suivi un peu la question de cet hiver, par exemple en février, on a eu l'impression, et c'était peut-être pas qu'une impression, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de pluie qu'auparavant, et évidemment ça correspond aussi à un moment où la végétation commence à renaître et prend une partie de ce surplus d'eau, mais en mars, avril, mai, ça n'a pas été le cas. C'est bien ça, Sami Warfa?
Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, cette année 2020, l'année était plus bénéfique du point de vue des pluies efficaces que l'année précédente 2019. Et vous l'avez dit, lorsque la végétation reprend, évidemment, donc la combinaison des pluies et des températures fait que vous avez donc cette année, on était dans des conditions qui étaient meilleures. Au sens où les pluies étaient plus efficaces, puisqu'il a plus plu et les températures étaient moins hautes que l'année précédente. Donc on est dans une situation préoccupante, mais moins grave que l'année 2019.
Oui, sur ce point, André Bernard, vous qui êtes agriculteur et président de la Chambre régionale d'agriculture PACA, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce que vous connaissez dans la région qui est la vôtre, de ce stress hydrique que connaissent beaucoup de régions de France aujourd'hui? Bonsoir.
Bonsoir. Disons que ce qu'on connaît nous en Provence, c'est ce qui est en train d'arriver dans pas mal d'autres territoires en France. Chez nous, effectivement, les pluies, elles sont importantes en principe à l'automne et quelquefois au printemps. Et on a un enneigement sur le massif alpin qui nous permet, grâce à des aménagements qui ont été faits par des gens visionnaires à la fin du 19e siècle et réalisés dans le début, la première partie du 20e siècle, qui met la région Sud-PACA à l'abri des grands événements de sécheresse. Il n'en demeure pas moins que certains territoires ne sont pas irrigués, ne sont pas sécurisés, et que ça pose des problèmes. Mais une grande majorité du territoire de la région sud est desservie par l'axe durancien, avec deux réservoirs que sont le Serre-Ponçon et le Verdon, qui mettent à l'abri des besoins, des risques. La population de Marseille, la population du littoral, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'eau, je crois que la première chose qu'il faut qu'on fasse tous, c'est d'avoir une préoccupation de l'économiser. Il faut d'abord que tout le monde l'économise. Il faut qu'on la partage. Et il faut l'utiliser à bon escient. C'est une ressource qui devient un peu plus rare que ce que c'était par le passé. Elle tombe de façon beaucoup plus irrégulière. Parce que ça, en Provence, on l'a toujours connu. D'autres régions moins. Et c'est pour ça que on retrouve encore des vestiges des Romains de transport d'eau, tel le pont du Gard. On retrouve les canaux qui ont été creusés par les papes quand ils sont arrivés au XIIe siècle à Avignon. Surtout les aménagements faits par Adam de Craponne, qui a permis de créer la croix verte, celle qui fournit le seul foin enhaussé du monde, qui pousse sur une steppe sèche. Mais par ces aménagements-là, au fil des siècles, on en a fait un trésor de biodiversité et qui permet d'alimenter plus de 500 000 personnes en eau potable. Plus proche de nous, Napoléon à tracer les grands canaux d'irrigation qui ont permis à notre région de se développer sur le plan économique. Et un peu plus proche de nous, fin du 19e siècle, début du 20e, les grands projets prévus, Serre-Ponçon et Le Verdon, la réalisation dans les années 50, et puis derrière, en maillage avec la Société du Canal de Provence qui permet d'irriguer ou de sécuriser l'eau à la société, quoi, parce que le Canal de Provence, la part agricole, c'est la part congrue de son activité. Donc tous ces aménagements-là permettent à cette région de vivre à l'abri. Ouais. Et on a d'autre côté le Rhône, qui est lui un fleuve très important. Et aujourd'hui, le Rhône est utilisé à hauteur d'un jour par an, l'eau utilisée par l'agriculture. Sur tout le bassin versant du Rhône, ça correspond à un jour de débit.
André Bernard, je donne la parole à Gabriel Boulot, qui n'est pas encore intervenu. Bonsoir, Gabriel Boulot.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, et ce que vient de dire André Bernard, c'est que l'eau, c'est politique.
Oui, tout à fait. L'eau, c'est politique, et je crois que je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que il faut l'économiser. Mais je pense que la gestion de l'eau, c'est bien plus qu'un partage entre secteurs. Je pense que on a géré autrefois l'eau par secteur de façon cloisonnée, et en fait, c'est une erreur parce que les secteurs sont pas isolés, ils sont pas autonomes, et ça. Au moins pour trois raisons. D'abord parce que c'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette eau, mais surtout, dans quel état on va la rendre au milieu et aux autres usages, ça compte beaucoup. Et donc, il faut se mettre d'accord là-dessus. Et ça, c'est des accords politiques. À la fois pour savoir quelle sera la qualité de l'eau d'irrigation quand elle percolera dans les nappes en dessous. Donc ces nappes, elles peuvent être, comme on disait, utilisées dans la croue pour l'alimentation en eau potable. Il faut qu'elles restent de bonne qualité. Mais c'est vrai aussi à l'aval des villes et à l'aval des industries, dans les rivières, plus en aval, il y a d'autres usages. Et puis ça va jusqu'à la mer. Et la mer, c'est aussi un milieu dans lequel on a besoin de maintenir une certaine qualité. Et alors, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas considérer que les secteurs soient indépendants et que ça suffirait de dire, bah, tenez, on donne cette portion à l'agriculture, et tenez, on donne cette portion à la ville, et puis voilà, c'est un arbitrage, une sorte de, vous disiez au début de l'émission, un conflit entre usages ou une bataille de l'eau entre usages. Je pense que c'est bien plus que ça, il faut apprendre à se connaître et à savoir, du coup, comment on agit sur un milieu. Et donc, la négociation, elle ne peut pas être hors sol. Il faut tenir compte du fait que les milieux sont tous différents. On a des milieux qui sont sensibles à l'érosion. On a des milieux qui sont sensibles à la remontée du biseau salé, c'est-à-dire le sel qui est dans la mer. Eh bien, si on pompe trop dans les nappes douces qui sont sur la partie terrestre, on risque de pomper la mer. Bon, alors voilà, le Rhône, il sert aussi à évacuer le sel des nappes à proximité. Et puis, ces milieux, ils ont leur vulnérabilité, ils sont plus ou moins perméables, plus ou moins filtrants, etc. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est des situations qui seraient irréversibles et qui nous priveraient des fonctions qui sont rendues par ces milieux. Et puis, il y a peut-être une dernière raison qui fait que ces secteurs sont pas indépendants les uns des autres et que du coup, il faut un projet politique, c'est que, eh bien, chacun de ces usages, en fait, ils construisent un territoire. Et en fait, non seulement on doit maintenir ensemble notre milieu de vie, mais on doit avoir un projet collectif qui donne du sens et qui permet de dire qu'il ne s'agit pas seulement de sécuriser les usages tels qu'ils ont toujours existé, mais en fait de se projeter, d'envisager avec de la prospective qu'est-ce qui pourrait arriver demain et est-ce que tous les usages qui existent, ils méritent de continuer et ils doivent être transformés. Est-ce que les productions qu'on fait avec cette eau ont du sens pour chacun des territoires de l'eau?
Oui, c'est ce à quoi vous êtes confronté, Guillaume Choisy, en tant que directeur général d'une agence de l'eau, celle d'Adour-Garonne, effectivement, savoir ce que l'on fait avec cette eau qui arrive théoriquement en particulier des Pyrénées, comment faire en sorte que ces conflits d'usage, qui sont plus que des conflits d'usage, nous disait à l'instant même Gabriel Boulot, puissent se résoudre pacifiquement. On sait que c'est sur votre territoire qu'il y a eu évidemment le conflit de Sivens, qui s'est terminé par la mort d'un jeune homme, Rémi Fraisse, mais aussi l'abandon du projet de Sivens, et qu'il y a d'autres conflits comme à Caussade qui se sont déroulés récemment. On y reviendra avec vous et avec d'autres peut-être. Toujours est-il qu'effectivement, il y a des tensions autour de ces questions-là. Comment discuter autour d'une agence de l'eau comme la vôtre?
Oui, c'est un peu notre travail commun de pouvoir assembler des positions qui, à l'origine, n'ont pas forcément espace à converger, parce qu'aujourd'hui on est face à des situations qui évoluent d'abord beaucoup plus vite que ce que l'on imaginait, et l'enjeu de pouvoir trouver des solutions, et je dis bien des solutions parce qu'il n'y a pas de solution unique, c'est ce que me disait Madame Boulou à l'instant, les solutions elles sont multiples pour pouvoir résoudre ces conflits d'usage. D'abord on est sur le sud-ouest, pourquoi il y a plus de dans le sud, plus de conflits dans le sud-ouest que dans le sud-est? C'est parce que le président de la Chambre d'agriculture de PACA l'a rappelé à l'instant, l'historique n'est pas le même, on ne bénéficie pas d'unités comme Serre-Ponçon ou le Verdon. Serre-Ponçon, c'est l'équivalent de l'ensemble des stockages du bassin d'Our-Garonne. On a à peu près 2 milliards de mètres cubes, et on a à peu près 2 milliards de mètres cubes de stockés entre les réserves hydroélectriques, les réserves agricoles et les réserves d'étiage. Et tout ça doit servir à l'ensemble des usages, et en premier lieu à la production d'hydroélectricité, qui est la plus grosse réserve liée à l'utilisation des usages de l'eau sur le bassin d'Our-Garonne. Et on a dans le sud effectivement des débits sur les rivières qui ont déjà énormément subi les effets du réchauffement climatique. Sur le bassin d'Our-Garonne, c'est 2/3 du territoire qui est en déficit structurel sur les périodes d'étiage d'été.
Et puis donc, il faut dire aussi que dans votre région, il y a en particulier l'usage agricole, donc en particulier la façon dont on traite les maïs, les tournesols, mais surtout les maïs qui sont très gourmands en eau, et que tout cela effectivement ça participe des conflits locaux. J'étais l'année dernière à Toulouse pour un débat où des jeunes agricultrices discutaient avec certains des responsables des agences de l'eau ou des chambres d'agriculture en disant, écoutez, nous on reprend la ferme de nos parents, on fait 100 hectares de maïs, vous nous dites qu'il faudrait qu'on arrête. Ça fait partie des discussions.
Ça fait partie des discussions, mais il ne faut pas non plus stigmatiser. C'est-à-dire qu'on, dans le sud-ouest, il y a 1/3 des agriculteurs quand même, et c'est une activité extrêmement structurante, c'est la première activité du territoire actuellement. Donc c'est à prendre aussi en considération. Je pense qu'on peut arriver à concilier différents usages à condition de ne pas tout cibler sur une seule action. La diminution, l'évolution des champs de maïs, elle a diminué de façon considérable dans le sud-ouest. Aujourd'hui, on a déjà 20% de moins de cultures de maïs que ce qu'on avait il y a 10 ans. On économise aussi sur les pratiques ou une meilleure efficience. Je ne sais pas s'il faut parler d'économie d'eau ou d'efficience de l'eau. Si les agriculteurs avaient gardé les mêmes pratiques qu'il y a 10 ans, on utiliserait chaque année 100 millions de mètres cubes supplémentaires. Mmh. Et on relance un appel à projet au niveau de l'Agence de l'eau de Haute-Garonne pour avoir une meilleure efficience. C'est les premières choses, c'est effectivement toute cette efficience dans les différents secteurs, que ce soit l'eau potable, l'eau industrielle ou l'eau pour l'agriculture. Et ça, c'est important d'avoir une meilleure efficience. Et là, l'objectif, c'est ce qui avait été émis par la ministre dans les assises de l'eau, c'est de pouvoir à nouveau économiser sur les 5 prochaines années, 5 à 6 prochaines années, 15%, 10 à 15% d'économie d'eau en plus. Ça, c'est la première solution.
Allez-y.
Pour résoudre les problèmes. Les autres solutions, la deuxième probablement, c'est tout ce qui est lié aux solutions fondées sur la nature. On a énormément de zones humides qui ont eu un rôle essentiel de stockage d'eau, parce que les précipitations sont de plus en plus abondantes et moins efficaces, parce qu'elles tombent beaucoup plus vite dans les périodes d'hiver et avec des longues périodes de sécheresse. Si on arrive à préserver l'ensemble des zones humides que l'on a, et on va les répertorier, c'est le travail que fait l'État actuellement, et il y a un engagement pour le faire.
Beaucoup d'entre elles ont été drainées en partie pendant les années précédentes, et donc effectivement il faudrait les remettre en eau d'une certaine
depuis
façon.
Depuis les années 60 notamment, puis il y en a aussi qui sont pas forcément entretenues, la plupart d'ailleurs c'est le cas, c'est des champs d'épines, et quand c'est pas entretenu et qu'on n'a pas d'élevage, notamment sur certaines zones, ça fonctionne plus l'effet d'éponge. On a réhabilité avec le département de Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 ans, le marais de brouage. L'année dernière, année de sécheresse record. Je ne sais pas si c'est une cause à effet, les chercheurs de l'IRSTEA nous le confirmeront, mais en tout état de cause, j'ai constaté qu'on n'avait pas eu de problème ostréicole sur le bassin de Maraine-et-Oléron, parce qu'en amont, on a fait une zone humide qui a permis d'augmenter de 10 millions de mètres cubes, c'est 10 fois Sivens, puisque vous le citiez tout à l'heure, en termes de volume, dans une zone humide, parce qu'on a réhabilité l'élevage, parce qu'on a réhabilité les canaux, et que le système éponge fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est une solution. Tout ce qui va être aussi lié à
l'érosion. Brièvement, parce que je voudrais donner la parole aux autres invités.
Je vais très vite. Mais tout ce qui va être aussi lié sur les fondations, tout ce qui est lié au couvert végétaux l'hiver. Et puis enfin, il y a le stockage, l'optimisation de stockage, voire la création quand c'est nécessaire, peut être une solution. Et c'est l'ensemble de ces solutions qui vont nous permettre d'éviter les conflits d'usage et de sécuriser les conflits d'usage, notamment sur des bassins comme le nôtre. Voilà, il n'y a pas une solution unique, c'est une multiplicité d'actions. Et quand on fait des projets, notamment dans le cadre de projets de territoire, il faut les raisonner avec une force publique porteuse, plutôt avec des collectivités locales, et fait avec une dynamique de multi-usages et de multi-solutions.
Je donne la parole tout de suite à André Bernard, puisque vous parlez effectivement de rétention d'eau, de capacité peut-être de faire ce qu'on a appelé longtemps des bassines. On appelle plus cela tout à fait des bassines, mais c'est donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas la campagne, effectivement, la possibilité pour des agriculteurs de se fédérer pour pouvoir stocker l'hiver le trop plein d'eau et permettre ensuite de pouvoir utiliser cette eau pour pouvoir dans les périodes les plus sèches irriguer par exemple ces cultures. Sur ce point et sur ce point très précisément, André Bernard, on peut dire que là il y a des conflits d'usage, que dans les villages, que dans les communes, des débats se font jour entre agriculteurs et non-agriculteurs autour de l'usage de ces fameuses bassines et de la possibilité ou non que ça soit une partie de l'eau commune qui soit captée par les seuls agriculteurs qui fabriquent ces bassines.
Oui, alors si vous permettez, je veux imaginer mon propos. Un citoyen qui met des cuves en bas de ses gouttières pour récupérer l'eau de pluie et arroser son jardin et laver sa voiture, c'est un bon citoyen, la collectivité l'aide, le subventionne, et il est cité en exemple. Un paysan ou des paysans qui veulent récupérer de l'eau de pluie quand elle est excédentaire sur leur territoire et la stocker pour l'utiliser, pour produire de la nourriture, et aujourd'hui il y a bien un débat de la relocalisation, de la sécurisation alimentaire, permettez-moi quand même de rappeler que chaque année, les incidents climatiques représente 2 milliards de pertes pour l'agriculture, et que la perte liée à la sécheresse est la principale perte, et que pour les calamités agricoles, le fonds des calamités agricoles, l'année 2015, c'est 95% du montant versé pour les calamités qui a été lié à la sécheresse. Pour l'année 2018, c'est 85%. Je n'ai pas les chiffres de 2019 encore.
Qui était pire.
Qui était pire. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette eau, quand elle tombe, elle est tombée au printemps. Je fais partie du comité de suivi hydrographique. On a bien vu qu'il y a eu des pluies importantes, il y a eu des recharges de nappes importantes, qu'il est tombé quelquefois 200 mm au mois de mai, et qu'au mois de juillet, on est en sécheresse. Si on avait pu stocker un peu d'eau et la ressortir aujourd'hui, sans la prélever de façon intensive sur le milieu, sur les petits cours d'eau, voire certaines retenues ont une capacité de relarguer, excusez-moi de revenir en Provence, ces reponçons relarguent plus d'eau l'été dans la Durance que ce qu'il en rentre en amont du barrage. Donc il y a bien un effet bénéfique pour le milieu, pour l'ensemble de la société, et ça permet aussi de sécuriser l'alimentation, que si nous ne produisons pas chez nous, nous allons aller chercher dans d'autres pays. Les 15 autres pays n'ont pas la même chance que nous d'avoir autant d'eau qui leur tombe dessus. Et nous allons assoiffer des pays qui ont moins d'eau que nous pour nous nourrir nous tranquillement et laisser couler l'eau à la mer. Ces pays que l'on va assoiffer, ça sera demain des migrants climatiques. Donc je crois qu'il faut créer une véritable volonté. Je veux dire, il n'est pas question de faire n'importe quoi, il n'est pas question de prendre notre
temps. On a compris. J'ai
dit de partager. Mais ne pas en stocker un peu quand elle est abondante pour l'utiliser quand c'est nécessaire. C'est une aberration.
Samy Bouarfa, sur ces questions justement de ces sécheresses qui deviennent de plus en plus nombreuses et qui provoquent justement ces tensions que je décrivais depuis le début de cette émission et qu'on peut voir ici ou là se développer, que ça soit d'ailleurs dans la Sèvre Niortaise, que ça soit à Caussade ou ailleurs, ou encore à propos de, mais ça c'est très un peu différent, du côté de Vittel. Samy Bouarfa.
Oui, bah écoutez, moi je reprendrai l'argumentaire de Monsieur Choisy. C'est un panel de solutions sur lesquelles on travaille, même au niveau recherche. C'est-à-dire que, effectivement, la question de l'efficience de l'eau, c'est un premier levier d'action. Hein. Les agriculteurs, notamment pour les questions d'irrigation, les agriculteurs ont fait déjà beaucoup d'efforts par le passé, ont amélioré leurs techniques, ils sont accompagnés en cela, et il y a encore des gains possibles. C'est un premier levier. De changement technique, mais également toute la réflexion qui a cours alors sur la dimension agricole, hein, la réflexion qui a cours aujourd'hui sur la transition agroécologique, c'est très lié aussi, et il faut absolument connecter cette réflexion à la question de l'eau. Les nouveaux systèmes de culture qui se mettent en place, le fait de regarder le sol différemment de ce que l'on faisait avant, hein, comme vraiment une réserve de vie et avec ses fonctionnalités, c'est un deuxième levier pour trouver des solutions, donc faire évoluer les systèmes de culture, mmh. les rendre moins dépendants à l'eau, sans pour autant condamner les pratiques d'irrigation. Mais ça permet, enfin, c'est, en tout cas, c'est des axes de recherche qui nous paraissent vraiment importants. Et puis, effectivement, toute cette réflexion qui a cours aujourd'hui sur le développement de... Alors, on préfère le terme de retenue de substitution à celui de bassine, qui est très connoté.
Ouais, bah, mais disons que bassine a jusqu'à maintenant provoqué des conflits, et si on utilise retenue de substitution, on imagine que ça en provoquera peut-être moins.
Bon, ouais, au-delà du vocable, effectivement, tous les espaces de concertation qu'il faut ouvrir pour que ce type de d'ouvrage soit vraiment fasse l'objet d'une concertation territoriale et ne soit pas que le fruit d'un dialogue entre l'agriculture et l'État, c'est vraiment important. Et je terminerai, on travaille également sur toute la dimension économique. Puisque qui va payer pour ce type de dispositif? L'État en paye une grande partie, il faut donc qu'il profite à l'intérêt général. Et on observe qu'un certain nombre de projets qui s'appellent aujourd'hui projets de territoire qui sont en instruction bénéficient de très peu d'études économiques, on va dire, approfondies. Et donc c'est vraiment important de raisonner aussi l'eau d'un point de vue économique.
Qu'est-ce que l'irrigation de résilience? J'ai découvert ce terme, je ne savais pas du tout que ça existait. Ça veut dire quoi, Samy Boirefois, l'irrigation de résilience?
C'est un terme qu'on commence à un concept, disons, qu'on commence à développer autour de ce que je vous disais, de mieux concilier, en fait, d'une vision agroécologique de l'agriculture. Et une irrigation adaptée, c'est-à-dire que ne pas rendre les cultures totalement dépendantes à l'eau, et donc travailler sur des systèmes de culture à la fois résilientes, mais qu'on peut accompagner avec l'irrigation. Donc trouver un compromis entre les deux. On a souvent raisonné l'irrigation comme étant, on va dire, la solution. Il manque de l'eau, on irrigue. Or, on voit bien qu'on ne pourra pas poursuivre ce raisonnement exactement comme avant. Donc d'où ce terme. Qui ouvre la voie à des compromis.
Alors, il y a évidemment des conflits ouverts, comme celui du procès du lac de Caussade, c'était le 10 juillet, c'est donc tout récent, des peines de prison ferme pour Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken. Franken, au procès du lac de Caussade, dans Lot-et-Garonne, donc c'est sur dans le sud-ouest, les prévenus étaient poursuivis pour avoir illégalement réalisé l'ouvrage destiné à l'irrigation sur la commune de Pinal-Autrive. On est exactement dans la question qui nous occupe, un extrait de ce qu'ils disent à la sortie de ce procès.
C'est gravissime, c'est lamentable.
Vu la lourdeur de la peine, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui ou pas?
Absolument aucun regret. Ah absolument aucun regret.
Ah ben oui.
Alors écoutez,
c'est pas ça qu'on a refaire,
On le referait, évidemment qu'on le referait.
Bien sûr, et on va le refaire.
Et c'est bien possible.
Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui que vous auriez pu faire davantage de concertations
On les a toutes faites, les concertations. Justement, on les a toutes faites, puisqu'on a eu un arrêté qui nous a permis d'attaquer le lac, quoi, hein, et qui nous a été enlevé politiquement. Voilà. Donc, nous, les concertations, elles sont toutes faites, toutes les études d'impact sont faites, tout a été fait, 10 fois.
Les personnes qui ont jugé ne comprennent rien au problème. Ouais. Voilà. Le problème est exposé partiellement, hein, il va bien au-delà de nos personnes, mais en fait, c'est quand même nous qui payons.
Des peines très lourdes quand même, avec la révocation du sursis, si j'ai bien compris.
Oui, très bien, impeccable. Oui.
22 mois et 13 mois.
Oui, hein, 13 mois. Deux mondes se sont affrontés et vraiment, ils nous ont épinglés au mur des cons.
Voilà, deux mondes se sont affrontés, disent Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken, donc à la sortie de ce procès pour le lac de Caussade. Gabriel Boulot, ça peut aller loin, justement, ces conflits dont on parle?
C'est sûr que sur certains territoires, les situations vont se tendre. Mais avant d'envisager de nouvelles infrastructures, je pense que c'est important de tenir compte de deux contraintes. Ce que disaient ces acteurs et ce qu'a dit Monsieur Bernard sur le fait que pour certains agriculteurs, l'eau, c'est vital, on pourrait le dire en fait de tous les usages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'agriculture qui a un besoin vital d'eau. C'est vrai aussi pour la protection contre les incendies. C'est vrai aussi pour les canicules. C'est des enjeux vraiment vitaux. C'est pareil pour assurer l'indépendance énergétique. On peut aussi monter ça en généralité comme étant un enjeu vraiment majeur. Et l'effondrement de la biodiversité, c'est aussi un enjeu vital. Donc en fait, si on essaye de justifier ça sur des enjeux très très généraux, on n'en sort pas parce qu'en fait, il n'y a pas de principe de priorité qui peut être absolu. À chaque fois, c'est la vie qui est en jeu. Or, dans les territoires en tension sur l'eau, il y aura moins d'eau disponible. Donc, de toute façon, il faudra faire des choix. Donc, il faudra revenir sur terre sur le fait qu'on peut aussi défendre les incendies autrement. On peut aussi cultiver des cultures moins vulnérables. Mm-hmm. Samy Boirfa l'a dit. Et puis, après, il faut savoir que... Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas continuer comme avant. Et les infrastructures de stockage, c'est une des possibilités. Mais il faut savoir que toutes les infrastructures liées à l'eau, elles, que ce soit le stockage ou la distribution pour du transfert aussi, ça coûte très très cher quand c'est bien fait dans les règles de l'art et que du coup c'est fait pour durer des centaines d'années, au moins 100 ans. Or, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute une infrastructure, l'eau au bout du nouveau tuyau ou bien dans le nouveau barrage, elle coûte toujours plus cher, même plus cher que l'eau qui existe actuellement dans les réseaux existants. Donc c'est sûr que l'eau la moins chère, c'est l'eau qui est économisée dans les réseaux existants en réduisant les usages qui vont être jugés comme inappropriés. Et ça dépendra beaucoup des territoires. Alors, il faut savoir qu'historiquement, toutes les infrastructures qu'on a construites, et donc Monsieur Bernard rappelait que parfois c'est des Romains même qui les ont construites, à chaque fois ça a été financé par la fiscalité parce que les usages directs n'étaient pas assez rentables pour financer eux ces infrastructures.
Bien sûr.
Donc on en fait appel à la solidarité nationale ou locale, et donc cet appel, ça nécessite de dire que il faut qu'il y ait un débat là-dessus, donc des concertations effectivement. Alors. Et alors, l'enjeu, là, c'est de définir quel va être l'avenir de chaque territoire. Et là, je pense qu'il y a un enjeu de construction d'une vision commune, au-delà, évidemment, des situations qui sont complètement crispées, qui seront peut-être mal passées au départ. Mais pour ça, pour pouvoir dépassionner le débat, il faut ouvrir les options, construire de la prospective en voyant qu'est-ce qui peut se passer, quelles peuvent être les évolutions de pratiques, les évolutions de techniques, mais aussi de mieux connaître les liens qui rendent dépendants les uns des autres les usages et les milieux. Et en fait, ces liens, on ne les connaît pas tous, et c'est un gros enjeu que d'avoir une meilleure connaissance de nos interdépendances mutuelles.
André Bernard, sur ce point, brièvement, je redonnerai la parole ensuite à Guillaume Choisy.
Oui, alors, je crois qu'effectivement, la concertation, c'est indispensable. Je crois que la mise en place des PTGE, projets de territoire et gestion de l'eau, doivent être faits, et on doit donner la parole, et ça a été dit tout à l'heure par madame, projet de territoire, et que les acteurs de territoire, sur les territoires, se parlent, construisent un projet.
Et ça, c'est important que de dire, vous dites évidemment un peu contre Paris, que effectivement, ça se décide, et le meilleur, c'est de se décider sur le territoire.
Mais il faut faire confiance, je veux dire, faisons confiance aux acteurs de territoire, hein, parce qu'on y vit sur ce territoire depuis des générations, on a accueilli beaucoup de monde depuis quelques décennies, donc effectivement, il faut qu'on se parle et qu'on se comprenne. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'on voit bien que chaque fois qu'on... Et je porte aujourd'hui un projet de territoire sur le Nord Vaucluse du Sud-Drôme. Bon, effectivement, on a réussi à se mettre d'accord avec beaucoup de partenaires, et y compris les environnementalistes, parce qu'effectivement, on est sur un projet d'économie d'eau par du passage goutte à goutte, par de la substitution de prélèvements en milieu naturel, par un prélèvement dans le Rhône qui, lui, est relativement abondant. Il y a encore, même s'il y a de la baisse, on a encore un peu de marge. Et la loi de la CNR 1931 nous a donné des droits d'eau que nous n'utilisons pas aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut travailler. Par contre, il faut aussi, et nous le faisons, faire évoluer les pratiques. Effectivement, nous expérimentons aujourd'hui des couverts végétaux de type méditerranéen qui consomment très peu d'eau sur les cultures pérennes, vignes et arbres, pour limiter l'évapotranspiration, ne plus avoir à désherber, ne plus avoir à travailler le sol. Nous expérimentons des ombrières dynamiques sur les vignes et sur l'arboriculture qui permettent de réduire de 30 à 40% l'évapotranspiration. Mmh. Nous travaillons avec des serres photovoltaïques qui permettent de réduire l'évapotranspiration et les effets du vent sur les cultures. Tous ces travaux, le travail du sol, le couvert végétal. Si je veux faire un couvert végétal pour capter l'eau quand il va pleuvoir en mois de septembre, octobre, eh bien, il faut peut-être qu'au mois de juillet, parce que je moissonne 3 semaines plus tôt qu'avant, il va falloir passer un coup d'arrosage pour faire lever mon couvert végétal. Mais si je vais arroser en pleine terre maintenant, ça va être... c'est pas compris. Personnellement, sur l'exploitation, 90% de notre irrigation, la surface irriguée, est irriguée par du goutte à goutte. Et permettez-moi, j'ai 62 ans aujourd'hui, À l'âge de 10 ans, j'arrosais ce qu'on appelle à l'arrêt, c'est-à-dire on faisait couler l'eau dans la rangée.
Ouais.
On estime aujourd'hui, avec les moyens de, il n'y avait pas de compteur à l'époque, hein. Et par rapport aux pompes et tout ça, on estime qu'on consommait en gros 40 000 mètres cubes à l'hectare. Quand je me suis installé en 78, j'ai acheté un enrouleur, je suis passé à 6-7 000 mètres cubes à l'hectare. 7-8 ans après, je suis passé au goutte à goutte, je suis tombé à 5 000 mètres cubes à l'hectare. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nous travaillons et nous expérimentons. Nous développons du pilotage automatisé, des sondes capacitives dans le champ mm-hmm. pour réduire le temps d'irrigation, plus de fractionner, et là on arrive à 2500 mètres cubes à l'hectare.
Effectivement, c'est un effort.
Des investissements importants, humains, en formation, parce que mm-hmm. avoir une pelle et faire couler l'eau, c'est une chose. Gérer des programmateurs, c'est autre chose.
Sur ce point, je vais donner la parole à Guillaume Choisy, si vous voulez bien, André Bernard, pour qu'il réagisse à ce que vous dites, ainsi qu'à ce qu'ont dit Samy Boirefin et Gabriel Boulot auparavant.
Oui, moi je soutiens cet aspect de dire d'abord sur chacun des territoires, on a des bassins, on a des cadres qui permettent aujourd'hui de co-construire avec un dialogue territorial des projets de territoire sur chacun des bassins où il y a des déficits quantitatifs. Le point d'achoppement, il est souvent sur la création de retenues en France. Le débat souvent se cristallise sur ce point-là. Et deux petites précisions, je pense. Quand on dit la différence entre l'image que l'on a de dire bassine et retenue de substitution. Souvent, quand on dit bassine, on imagine derrière que c'est du développement de l'irrigation et souvent, on voit le maïs irrigué et développer des surfaces de maïs irriguées.
Ça s'est passé, ça a existé.
Ça existe peut-être encore, mais de façon très marginale, et ce n'est plus aidé par les agences de l'eau et par les pouvoirs publics de l'État. Depuis les assises de l'eau, c'est essentiellement les retenues de substitution qui sont aidées et qui servent à substituer, faire des retenues quand l'eau tombe en hiver, les remplir, et de pouvoir substituer cette eau-là à des prélèvements qui sont faits l'été dans les rivières pour garder des meilleurs débits des rivières et une meilleure biodiversité de ces rivières. Ça, c'est un point essentiel, et maintenant, c'est sur ce point-là qu'on peut aider, qu'on peut les créer.
Mais
ça,
est-ce que vous trouvez-vous, en tant que responsable d'une agence, directeur général d'une agence de l'eau, qu'il est plus simple ou plus difficile de plaider pour ce qu'on dit tous nos invités, d'ailleurs, se mettre autour d'une table, discuter, débattre, dans un contexte de tension, de sécheresse accrue chaque année?
Mais oui, je pense que d'abord, il faut le faire le plus vite possible, il faut accélérer. C'est ce qu'on a fait en Adour-Garonne avec notamment le préfet de bassin, le président de bassin, et de pouvoir accélérer ces sujets-là et de pouvoir les mettre plus vite en œuvre, parce que plus on attend, plus on sera face à des conflits importants et plus il sera difficile d'avoir une concertation sereine. Maintenant, on s'aperçoit que sur les territoires, y compris en Adour-Garonne, vous avez cité un certain nombre de conflits, on arrive à les dépasser. Ces conflits sont moins nombreux. On a aujourd'hui quelques conflits, certes, et vous les avez cités, mais on a aussi un certain nombre de territoires sur lesquels ça avance et sur lesquels on n'a pas de conflit et on arrive à se mettre d'accord. Je citerai notamment le dernier en date sur la Doure qui va être signé certainement dans les prochaines semaines, qui est prêt et qui a permis d'avoir l'activation avec des différentes solutions, substitution, retenue, mais aussi prendre de l'eau de réutilisation de la ville de Mont-de-Marsan par exemple, où c'est une solution et c'est des solutions qui permettent de converger.
Parce deuxième point. Un des risques, c'est la judiciarisation de ces conflits, c'est-à-dire qu'on rentre dans des procès. C'est ce que vous voulez éviter, j'imagine.
C'est ce qu'on veut éviter. D'abord, on perd du temps. Et puis, c'est ce qu'on disait déjà au début, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder ce qui peut être acceptable et ce qui peut être fait. Et quand on est sur des solutions concrètes, on évite les positions de principe et on arrive à converger relativement assez facilement. Je dis relativement, parfois, c'est pas non plus toujours simple tous les jours. Il y a aussi des conflits. Mais on discute et on arrive à se mettre d'accord. Je pense que c'est ceux qui ont participé à des projets de territoire vivent ça au quotidien maintenant sur nos territoires en déficit quantitatif et on arrive globalement à se mettre d'accord. Il y a une vraie évolution depuis quelques mois sur ce point-là. Dernier point.
Je pense brièvement, s'il vous plaît.
Oui. Entre aujourd'hui, le stockage d'eau, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas la seule solution. Et j'en conclurai là-dessus. C'est une des solutions, au même titre que les changements des pratiques agricoles, l'évolution des filières. Et d'ailleurs, je pense qu'on convergeait tous ce soir sur ces points de vue-là. Par contre, si on n'avait pas ces retenues de réalimentation des rivières, aujourd'hui, c'est 16 mètres cubes secondes ce jour qui sont déversés dans la Garonne grâce à des retenues de stockage, notamment qui sont exploitées. D'ailleurs, retenue d'État exploitée par EDF. Et si on n'avait pas ça, on aurait des débits beaucoup moins importants, d'un réchauffement beaucoup plus important de l'eau, et on n'arriverait certainement pas à terme à alimenter les populations, y compris en eau potable, parce qu'on aurait une eau trop chaude et trop concentrée en pollution. Donc c'est nécessaire, et on l'a fait depuis un certain temps, et ça existe déjà, et c'est nécessaire au bon état des eaux.
Un dernier mot peut-être, Samy Boirefin, sur ce qu'on appelle le paiement des services environnementaux. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça pourrait peut-être aider à la résolution avant qu'il n'y ait des conflits?
Eh bien, c'est se rendre compte que la nature rend des services, et donc c'est important de s'en rendre compte et de les valoriser à leur juste prix. Et donc, Monsieur le Directeur Général parlait des solutions fondées sur la nature, et c'est bien cette idée que, par exemple, lorsqu'aujourd'hui, finalement, on a parlé beaucoup d'eau à usage humain, économique, mais l'eau, ça sert aussi à faire vivre la vie et la vie aquatique. Et cette vie aquatique, elle peut être valorisée par des activités touristiques ou autres, et qu'il s'agirait de valoriser d'un point de vue économique aussi. Donc voilà ce qu'on entend par là.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir bien voulu débattre autour de ce micro et à distance. Samy Boirefin, vous êtes chercheur à l'INRAE, spécialiste en gestion de l'eau. Gabriel Boulot, politiste, spécialiste des politiques publiques de gestion de l'eau à l'INRAE. André Bernard, vous êtes agriculteur et président de la Chambre régionale d'agriculture PACA, référent gestion des risques climatiques pour les chambres d'agriculture, et également Guillaume Choisy, directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission bientôt, mais la petite surprise, c'est d'avoir Camille Diao. Bonsoir Camille.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes donc celle qui me remplacera au micro à partir de lundi pour tout le mois d'août jusqu'au 24 août pour présenter ce temps du débat d'été. Merci d'être avec nous, juste pour dire bonjour aux auditeurs et peut-être aussi nous dire ce que vous allez faire en début de semaine prochaine.
Ben bonjour à tous. Oui, alors ben je suis très très honorée, très heureuse de faire vivre ce temps du débat en votre absence pour les 3 semaines à venir. Lundi, on va commencer avec la nouvelle loi bioéthique et une question, a-t-elle un train de retard ? Cette loi, elle a été discutée en deuxième lecture toute la semaine à l'Assemblée. Au terme de débats assez corsés, elle devrait être adoptée ce soir. On en débattra donc avec 4 invités, dont les 2 rapporteurs de la loi au Sénat à l'Assemblée nationale, un membre du Comité national d'éthique, Pierre-Henri Duet, ainsi que Laurence Brunet, une juriste spécialiste de ces questions. Ce sera lundi donc.
Voilà, merci beaucoup. Eh bien, c'est le programme de lundi. Il faut aussi remercier toute l'équipe du temps du débat parce que ils ont été à mes côtés donc tout au long de ce mois de juillet.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré.
Un peu présomptueuse, cette équipe du temps du débat d'été a pensé qu'elle est la meilleure, mais en tout cas, elle était très bonne à mes côtés, donc je la remercie. C'est une petite surprise qu'ils m'ont fait. Je ne m'y attendais pas. Merci à Sophie Lavie, à Alexandra Delbo, Mathilde Tonfourcade, Audrey Dugas et Nicolas Berling. Et puis aussi ici, présent à la technique, Sylvain Latu et Émilie Valla, qui m'a accompagné toute cette semaine à la réalisation de cette émission. Bon courage à vous, Camille Diao, pour tout ce mois d'août qui vous attend. Il y aura beaucoup d'actualités comme tous les étés et vous ne manquerez pas de pouvoir la relayer dans le temps du débat.
Face au destin qui nous désarme et devant